This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Ravi de vous retrouver comme tous les jours. Voici le programme du jour. La question n'est pas tant de savoir si Israël va riposter, mais quand et pour quelle cible viser. Cette riposte aura très certainement de lourdes conséquences pour la suite en fonction de sa nature. En France, la conférence polémique à venir de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan à Lille avec le logo Free Palestine et les mots ce matin de l'historien Georges Bensoussan qui compare Jean-Luc Mélenchon à Jacques Doriot, au collaborationniste Jacques Doriot. Beaucoup de réactions déjà sur les réseaux sociaux, vous l'écouterez. L'historien dénonce un risque même de fascisme, alors vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis c'est une unité d'élite, une unité qui intervient lors de prises d'otages, lors d'attaques terroristes. Le GIGN fête en ce jour ses 50 ans. C'est l'occasion de rendre hommage évidemment aux membres de cette unité d'élite. Et puis CNews a suivi, vous le verrez, les membres du GIGN dans un exercice d'intervention impressionnant et inédit. C'est à découvrir tout à l'heure. Voilà pour le programme. À découvrir aussi nos invités, je vous les présente. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec cette opération PlaceNet qui vient d'être lancée à Mayotte. À l'image de l'opération Wambushu, ce dispositif a pour objectif de s'attaquer à l'insécurité, l'immigration clandestine et l'habitat insalubre. Pendant 11 semaines, 1700 policiers et gendarmes au total vont être déployés. Écoutez la ministre déléguée aux Outre-mer.
Un an après, fort de ces bons résultats, nous lançons donc l'acte 2 du retour de l'ordre à Mayotte, avec l'opération Mayotte PlaceNet, qui a débuté ce matin, dès les premières lueurs de l'aube. Comme pour Wambushu, c'est une opération de grande envergure, qui se déroulera jusqu'au mois de juin, autour du même triptyque insécurité, immigration, habitat indigne, et qui verra des moyens et objectifs renforcés.
Dans le reste de l'actualité, ce nouveau refus d'obtempérer dans la banlieue de Strasbourg. Un homme a délibérément foncé à moto sur un policier qui lui demandait de s'arrêter. Ce mineur de 17 ans s'amusait à faire du rodéo à la sortie d'une école. Il a renversé l'agent de police avant de prendre la fuite. Le récit d'Augustin Donadieu.
Le choc est d'une rare violence. Alors que ce policier municipal tentait de mettre fin à un rodéo sauvage juste devant une école de la banlieue strasbourgeoise, il est percuté par le délinquant de la route et projeté au sol.
Donc il lui a fait plusieurs injonctions pour lui demander de stopper son engin. Et ce dernier a délibérément foncé sur notre collègue de la police municipale, le renversant. Et à l'issue de ça, il a pris la fuite et a été interpellé quelques instants après. Notre collègue de la police municipale transporté à l'hôpital.
Malgré la douleur, le fonctionnaire se relève et poursuit le délinquant de la route. Le jeune âgé de seulement 17 ans qui était au guidon de la moto non homologuée sera interpellé rapidement. Selon le syndicat Alliance, ces rodéos sont monnaie courante à Strasbourg et dans ses environs.
On a des vidéos choquantes où on a même parfois des déambulations de hordes de motos qui circulent dans certains quartiers avec justement ces motos non homologuées. Ça fait effectivement un trouble à l'ordre public assez important.
Le policier percuté a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une suspicion de fracture au poignet et de multiples contusions.
L'actualité internationale à présent, Donald Trump conteste la légitimité de son procès. L'ancien président des États-Unis est poursuivi pour paiement dissimulé à une ancienne star du X juste avant la présidentielle de 2016. Il a dénoncé hier soir une chasse aux sorcières et s'est plaint de ne pas pouvoir faire campagne comme il l'entend. On l'écoute.
Nous avons un vrai problème avec ce juge. Nous avons un vrai problème avec beaucoup de choses liées à ce procès, y compris le procureur. Ce procès est une escroquerie. Si vous lisez tous les experts juridiques, tous les juristes d'aujourd'hui, je n'en vois aucun dire que cette affaire devrait être intentée ou jugée. C'est une escroquerie, une chasse aux sorcières politiques qui se poursuit indéfiniment. Et nous n'aurons pas le droit à un procès équitable. C'est vraiment très triste.
Et puis à 100 jours des JO, la flamme olympique a été allumée, ça y est, hein, comme le veut la tradition, au sanctuaire d'Olympie, berceau des Jeux antiques. C'est parti pour un périple de 5000 km à travers la Grèce. La nageuse Laure Manaudou est la première relayeuse française. La flamme arrivera à Marseille le 8 mai prochain. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. À tout à l'heure.
Merci cher Mickaël et à tout à l'heure. Pour l'heure, nous sommes avec nos invités. Je salue Judith Vintraud. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Merci d'être là. À vos côtés, Frédéric Durand, bienvenue.
Bonjour.
Merci de votre présence. Céline Pina nous accompagne également. Bonjour à vous.
Bonjour.
Naïma M. Fadal nous fait l'amitié d'être là. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Et également pour ce midi, nous sommes avec Stéphane Simon que je salue. Bonjour cher Stéphane.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Beaucoup, beaucoup d'actualités. Et puis l'interview du matin qui fait un petit peu l'actualité, en tout cas réagir. C'est l'historien Georges Bensoussan, que vous connaissez bien, je rappelle, qui est auteur de nombreux ouvrages qui vont des territoires perdus. C'était il y a 20 ans, ouvrage collectif, jusqu'à d'autres ouvrages, et puis plus récemment sur les origines du conflit israélo-arabe. Alors tout d'abord, Georges Bensoussan a réagi à la fameuse affiche qui concerne la conférence qui aura lieu, si elle n'est pas interdite ou si elle n'est pas annulée, de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ce jeudi à Lille avec Rima Hassan. Je voudrais vraiment qu'on insiste sur l'affiche pour bien comprendre, parce qu'il y a ce logo Libre Palestine sur l'affiche qui est dénoncé par beaucoup, parce qu'il s'agit ni plus ni moins de nier à Israël le droit d'exister. Écoutons à ce sujet Georges Bensoussan.
Son slogan, c'est « Palestine libre ». Du fleuve à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate demain élue qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française.
Pour le débat et pour la nuance du débat, déjà, Céline Pina, est-ce qu'on peut dire qu'il ne s'agit pas du tout, et attention, de faire, comment dire, de créer une polémique ou d'interdire des personnes qui, et c'est tout à fait légitime aussi, parlent des victimes palestiniennes? Ce n'est pas ça qui est en cause. J'aimerais bien qu'on le précise.
Non, c'est pas du tout ça qui est en cause, parce que si ça avait été, je ne sais pas, une conférence de témoignage où des gens venaient raconter leur souffrance ou expliquer leur désarroi face à la mort de tant de civils en Palestine, je crois que ça n'aurait dérangé personne. Là, le problème, c'est clairement qu'on n'est pas du tout dans cette histoire-là. On est dans une histoire dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a donné quand même des preuves d'antisémitisme extrêmement fort, reprenant... Alors lui, il a réussi la synthèse de tous les antisémitismes, c'est-à-dire l'antisémitisme déicide, celui lié à l'Église catholique à une époque, l'antisémitisme où on reproche aux Juifs d'être riches et d'être puissants, antisémitisme très lié à l'antisémitisme de la bourgeoisie, l'antisémitisme de la gauche qui reproche aussi aux Juifs d'être des artisans du capitalisme, etc., lui, il réussit. Et il reprend aussi l'antisémitisme arabo-musulman qui nous explose au visage aujourd'hui. Il fait la synthèse de tout ça parce qu'il pense que l'antisémitisme est finalement une force qui permet d'avoir des électeurs, qui permet de marquer des points politiques. Et il investit dans le mal parce que ça lui rapporte à lui. Mais sinon, pour ce que dit Georges Bensoussan, moi, j'ai personnellement pas un mot à ôter à ce qu'il raconte, c'est tout à fait vrai. Et quand vous voulez éliminer un État comme l'État juif, vous
ça, c'est très slogan génocidaire. Hein.
Oui, c'est un slogan génocidaire.
Alors moi, j'ai une véritable question. Alors sur le slogan, je pense qu'on va se retrouver. Mais est-ce qu'il faut interdire ? Est-ce que c'est en interdisant que vous menez, que vous essayez de convaincre et de gagner la bataille dans les esprits, Judith Vintraud? Je n'en suis pas sûre, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous?
Moi, je trouve que c'est une excellente question parce que, en fait, la France insoumise a investi les universités. Oui. Le meeting dont on parle se passe dans une université. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon se défend de l'accusation d'antisémitisme en disant c'est pas nous, c'est le logo. On parle de cette fameuse carte où l'État d'Israël disparaît, c'est le logo de l'association étudiante qui nous a invités. Mais en fait, tout ce qui n'est pas la France insoumise a déserté le terrain de la jeunesse estudiantine universitaire. Il n'y a plus personne. Il y a l'Union des étudiants juifs avec ses petits bras qui essayent de lutter contre, mais je parle des partis politiques et pas simplement la droite. Ça vaut aussi pour le Parti socialiste, ou en tout cas pour ce qui reste de républicain au Parti socialiste. On ne les voit pas, on ne les voit plus. Ils ont la trouille ou ils considèrent que c'est une cause perdue.
Ce qui est très grave, parce que c'est évidemment, comme on dit, les adultes, les citoyens de demain.
Mais exactement. De cultiver. Oui.
C'est pour ça que je trouve que l'interdiction, c'est souvent l'arme du faible.
Oui, mais non, regardez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, si vous me permettez, parce que il se trouve, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, il se trouve quand même qu'on est là à la limite de l'entorse au code électoral. Je vous explique. En gros, quand vous utilisez en période électorale une salle qui vous est prêtée, donc qui ne vous est pas louée, et même si vous la louez et qu'elle vous est faite avec des rabais, eh bien si vous voulez, c'est considéré comme une assistance à l'organisation d'un meeting politique. Et on voit bien que la France insoumise se sert de la cause palestinienne, qu'il récupère la cause palestinienne à des fins électoralistes, et ce sont ni plus ni moins que des meetings de soutien à la France insoumise. Donc je serai président d'université avec le pouvoir discrétionnaire que cela veut dire, eh bien je me poserai la question de savoir si je mets à disposition d'un parti politique une salle.
J'entends cet argument.
C'est une entorse vraiment au code électoral.
D'accord, j'entends cet argument. Mmh. Mais sur la vraie question intellectuelle, sur le débat qu'on doit mener. Est-ce que vous pensez qu'interdire... Parce que moi, ce que je crains, c'est qu'une partie des plus jeunes d'entre nous se disent « Mais regardez, on ne peut même pas parler de Palestine. Oui. » En fait, c'est ça qui est en train de se
propager. Moi, je pense que déjà, il ne faut pas laisser la cause de la défense de la population gazaoui à la France insoumise. C'est la première chose. Il ne faut pas la laisser uniquement, parce qu'il y a des raisons de défendre la population, selon moi, gazaoui aujourd'hui. Donc, il ne faut pas la laisser...
Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui l'a entendu.
Il ne faut pas la laisser, en tout cas, à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il le fait sur des bases, parce qu'il y aurait beaucoup plus sévère que nous avec Mélenchon d'aujourd'hui. C'est le Mélenchon d'hier. Le Mélenchon d'hier, s'il devait parler du Mélenchon d'aujourd'hui, serait extrêmement sévère. Moi, je vous invite à réécouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon il y a une dizaine d'années simplement, où il n'y avait aucune concession d'aucune sorte.
Aucune ambiguïté.
À ce genre de... Voilà. Donc, ensuite, est-ce que c'est pour des raisons électorales? Probablement. Est-ce que sur le fond, lui-même a changé? C'est-à-dire que sa conviction profonde a changé. Est-ce qu'il revient à ses racines un peu trotskistes, etc. Je ne sais pas, parce que c'est un peu du marxisme de bande dessinée pour moi, Mélenchon. C'est pas très sérieux sur le fond, mais en tout cas lui serait très sévère avec le Mélenchon d'aujourd'hui. Empêcher le débat, je crois pas que ce soit la solution. Et d'ailleurs, on a eu souvent sur ce plateau l'occasion de voir que on a voulu empêcher certaines personnes de s'exprimer dans les universités, etc. Ça donnait pas raison aux gens qui voulaient empêcher le débat. Maintenant, est-ce qu'il y a des entorses, comme vous le dites, au code électoral, c'est tout à fait autre chose.
C'est pas une question. C'est important.
Non, mais tout à fait. Mais c'est une autre perspective, c'est un autre point de vue là. Il faut interdire ce qui est interdit. Ça, c'est cassé. Le débat en soi, lui, n'est pas interdit. Les propos qui peuvent être tenus dans le débat, oui, peuvent l'être, eux.
S'ils tombent sous le coup de la loi. Mais pour l'instant, vous noterez, parce que vous avez dit, mais Jean-Luc Mélenchon, il ne s'est pas rendu coupable au regard de la loi, en tous les cas, de propos antisémites.
Mais diaboliser ne sert à rien.
Il n'a pas été attaqué pour... Voilà. Il n'a pas été condamné, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas tenu.
Je sais, le fameux, ce qu'il avait dit sur Yael Braun-Pivet qu'elle campe à Tel Aviv.
Franchement, ce n'est pas le pire. Mais en revanche, on va bien voir comment la justice va juger les plaintes que Jean-Luc Mélenchon lui-même a déposées contre plusieurs personnes qui ont parlé de son antisémitisme. Si la justice donne tort ou déboute Jean-Luc Mélenchon, ça voudra dire en creux qu'on a tout à fait raison de le taxer d'antisémitisme. Ça, c'est extrêmement important. Juste un détail, en plus, il fait un meeting avec Rima Hassan qui, elle, est contre la solution à deux États.
Ben justement, c'est pour ça.
Or, c'est la position de la France insoumise.
Non mais... Quand on l'interroge... Écoutez, ils sont beaucoup plus ambigus. Moi, j'ai réécouté hier une interview qu'elle a accordée à France Inter, en tout cas sur le service public. Elle arrive à naviguer et à ne pas tenir ses propos, mais en tous les cas, à donner illusion, à faire illusion un temps. Donc, ce n'est pas les mêmes propos qui sont tenus dans les médias.
Elle a changé de discours.
Pas les mêmes pendant le meeting.
Mais en même temps, l'ambiguïté, enfin, on la voit.
Oui, là, en tous les cas, avec l'affiche,
c'est aux yeux. Avec cette carte, effectivement, Free Palestine, c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas la place pour Israël et qu'elle prône, comme le Hamas le fait dans sa charte, la destruction d'Israël et des juifs. C'est clair. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse encore penser qu'il y a une ambiguïté. Et en plus, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on est en campagne électorale pour les européennes. Donc, oui. Normalement, cette campagne électorale, elle concerne les sujets européens, qui concernent l'ensemble des Européens. Et là, elle importe, en fait, la cause palestinienne. Donc, elle l'instrumentalise, effectivement, à des fins électoralistes. Et c'est ça qui est grave. Et je voudrais juste soulever quelque chose qui me semble important, parce que elle s'adresse à l'électorat arabo-musulman, comme vous disiez, Céline.
Excusez-moi, à la population française musulmane.
Oui, mais aucun aujourd'hui. Citez-moi les pays arabo-musulmans qui demandent la destruction aujourd'hui d'Israël.
L'Iran qui ne veut pas être considéré comme un pays arabe.
Qui n'est pas un pays arabe.
Bien sûr.
Donc tous les pays aujourd'hui ne demandent pas.
Vous avez les dirigeants et vous avez la population.
Mais c'est pas ce que demande la France insoumise. Non, mais attendez.
Je pense que
là où il y a très clairement.
Ah, vous n'êtes pas d'accord sur le.
Non, mais dans le programme de la France insoumise. Parce que...
Mais la carte.
Ah bah oui. La carte, c'est. La carte, tout à fait. Je dis dans le programme de la France insoumise, je dis, il n'y a pas d'ambiguïté s'il y en a une. La preuve, c'est que dans le programme de la France insoumise, il n'est pas inscrit qu'il ne faut pas une solution à deux États dans la région. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des ambiguïtés. Voilà. Le jour où il sera écrit noir sur blanc, ce sera autre chose.
Sauf que c'est ça qui va impacter.
Pour revenir sur le débat.
Et en plus, moi, j'ai vu un tweet de Madame Rima Hassan où elle répondait à quelqu'un où elle disait « Je retournerai en Palestine quand la Palestine sera libre ».
Mais en fait, il y a quelque chose qui est très
La question, c'est, pardonnez-moi, quand vous dénoncez, c'est important, quand vous dénoncez, par exemple, ce qui se passe en Cisjordanie.
Ah, mais il faut le dénoncer.
Bon, c'est ce qu'elle dit. Oui. Maintenant, quand elle dit la même chose sur Gaza, c'est faux. Donc, en réalité...
En fait, le problème de tout ça, excusez-moi Sonia, mais on va revenir... effectivement, si on en est arrivé là aussi, il faut le dire, c'est que si on en est arrivé aussi là, c'est que Netanyahou, qui est aujourd'hui, il y a une contestation forte en Israël, a fait aussi en sorte qu'on soit dans cette situation. Le Hamas, quand même, il savait parfaitement que la charte du Hamas qui demandait la destruction d'Israël et plus un seul juif existait. Donc il a quand même aussi dealé. Il y a eu aussi la colonisation en Cisjordanie qu'il faut relever. Et puis il y a aussi la tragédie aujourd'hui qui a été à Gaza.
On va poursuivre.
Juste un point qui est intéressant sur l'affiche. Pourquoi est-ce qu'on met en gros Université de Lille ? Parce que vous validez ainsi, vous légitimez la prise de position. Donc le fait que le meeting se passe à l'université est mis en avant parce que c'est un outil de légitimation et c'est bien pour ça que toute cette conférence est une manipulation et que là, il faut l'interdire. Pas parce qu'on n'a pas le droit de dire des conneries, mais je rappelle quand même qu'un appel déguisé au génocide, ça c'est interdit en revanche. Donc il y a de quoi interdire.
Sur toutes les affiches du monde, vous mettez le lieu en gros, je vous rassure, j'en ai fait plein d'affiches politiques. Mettez toujours le lieu très gros.
Oui, mais honnêtement, construite.
Moi je suis désolée, j'en ai créé des affiches et des affiches électorales écrites comme ça, dans lesquelles vous avez l'œil. Qui ne voit quasiment que l'université de Lille.
Milieux étudiantins ou intellectuels, s'il en reste, dans certaines universités. Les titres avec Mickaël, et puis on va revenir sur cette phrase qui fait beaucoup réagir de Georges Bensoussan. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Est-ce qu'aujourd'hui, une comparaison historique, est-ce que aussi ça peut, je sais pas, ça nourrit le débat ? Est-ce que c'est des arguments qui portent aujourd'hui ? Tout d'abord, les titres avec vous, cher Mickaël.
Emmanuel Macron en visite dans le Vercors, le président de la République rend hommage aujourd'hui aux combattants du Maquis, une cérémonie qui s'inscrit dans les commémorations des 80 ans de la libération. Emmanuel Macron qui a félicité Damien Guéraud, un Français de 31 ans récompensé pour sa bravoure après l'attaque de Sydney. Il a brandi un poteau face à l'agresseur pour tenter de le stopper. L'attaque a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi. Et puis la bourse de Copenhague ravagée par les flammes, une flèche haute de plus de 50 mètres est déjà partie en fumée. Les pompiers danois restent à pied d'œuvre pour tenter de limiter les dégâts.
Alors, c'est une comparaison historique qui fait beaucoup réagir, celle de l'historien. Je précise, Georges Bensoussan est un historien. On peut ne pas être d'accord sur l'analyse qu'il fait de certaines choses, mais c'est un historien. Donc, en termes de connaissances et de comparaisons historiques, eh bien, il est assez, comme on dit, solide. Écoutons-le. C'est vrai que je le fais répéter deux fois, parce que ces comparaisons, parfois utilisées à tort et à travers, on l'a vu récemment par Renaissance en qualifiant Marine Le Pen de Daladier, ça a fait pchit, surtout en parlant de Daladier. Mais là, il s'agit du collaborationniste Jacques Doriot, c'est autre chose. Écoutons-le.
Ce parti
LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939.
Moi, c'est une interrogation. Est-ce que ramener ce qui se passe aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale et à des figures comme Doriot, est-ce que ça peut servir d'électrochoc ou pas aujourd'hui, Judith Vintraube? Est-ce que c'est vrai, selon vous?
Évidemment, toutes ces comparaisons ont leurs limites. Ce qui est intéressant dans celle qui vient d'être faite par Georges Bensoussan, c'est que Doriot s'est mis au service d'une puissance qui voulait détruire la France. Et quand je dis au service, c'est vraiment au service, puisqu'il s'est enrôlé pour combattre...
Il a porté l'uniforme nazi.
Oui, pour les nazis.
D'où la gravité quand même de la comparaison.
Exactement. Hein, que fait Jean-Luc Mélenchon? Il flatte les bas instincts, l'antisémitisme, la haine des juifs dans une partie de l'électorat arabo-musulman. Et en cela, il sert les desseins des frères musulmans et de l'islamisme conquérant, qui est un ennemi de la France, un ennemi des démocraties en général et de la France en particulier, des principes républicains, que ce soit l'égalité homme-femme, etc., etc. Donc, évidemment, on peut dire que Mélenchon sert les intérêts...
Alors, il dit le populisme, voilà, de Doriot,
D'une entité qui veut la destruction de tout ce qui contient...
Avec un projet, il parle d'un projet fascisant. Moi, je me demande, c'est-à-dire, d'agiter tous ces chiffons
c'est
rouges...
C'est l'épouvantail qu'avait secoué Mélenchon lui-même à propos de Fabien Roussel.
Fabien Roussel, c'est Sophia Chicquirou.
Voilà, c'est Sophia Chicquirou et qui avait
Fabien
été...
Fabien Roussel, Jacques Doriot.
Qui avait été un peu comme ça,
approuvé raison.
Par Jean-Luc Mélenchon lui-même à l'époque. Non, moi je crois qu'on n'y est pas du tout, c'est-à-dire que ce genre de comparaison sert plus qu'il ne dessert. C'est-à-dire que Mélenchon, il veut être dans la conflictualité permanente, dans la radicalisation, il veut tout conflictualiser. Donc tous les gens qui vont aller, parce que là il se comporte plus en politique qu'en historien, j'allais dire, M. Bensoussan, sans doute qu'il connaît la période. Cependant, la comparaison, pour moi, là, en espèce, ce n'est pas raison. Et je pense que ça le sert en plus, Jean-Luc Mélenchon, parce que il est, lui, sur cette voie-là, lui, ça ne le dérange pas qu'on conflictualise. Et ce genre, à mon avis, d'exagération, parce qu'on sait très bien que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un nazi, enfin, sauf si vous me donnez voilà, c'est pas un nazi, donc va plus servir que desservir.
Ouais. Donc, je crois que c'est une erreur. Il parle c'est les mêmes procédés, hein. Il dit que ça relève du même procédé du populisme que Doriot, parce que quand même, il est assez fin et nuancé.
C'est la même chose, on est d'accord, c'est pas pareil.
Ce dont il parle exactement, parce que à quoi est utilisé Doriot en politique? Parce que politiquement, comment l'utilise Jean-Luc Mélenchon? Il dit « ce sont des gens qui sont censés être de gauche et qui finissent à l'extrême droite ».
Les rouges au brun.
Alors si exactement. C'est ça, oui, la dérive en tout cas que va connaître Doriot au départ avant de s'engager et de porter l'uniforme nazi, on n'en est pas là dans l'histoire de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, cette dérive de quelqu'un qui veut incarner la gauche et qui termine à l'extrême droite en tenant des propos...
Mais c'est quoi l'extrême droite aujourd'hui? Parce que l'extrême droite, celui qui arrive à me la qualifier, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde.
Moi, je vais vous dire de façon très claire ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, porte une attitude et un discours d'extrême droite. C'est d'abord sa haine qui lui déforme son visage en permanente. Oui, c'est ensuite son attachement. Alors, si vous me laissez finir, peut-être qu'on sera d'accord ou pas. Son attachement à la violence politique et sa quête permanente du chaos pour détruire en fait ce que sont nos institutions et le contrat social tel qu'il existe. C'est son usage de la violence politique.
Attends,
c'est ses références...
L'expression n'est pas factieux, Jean-Luc Mélenchon. Il peut appeler à une forme de révolution, mais là, c'est pas une révolution.
Non, mais c'est l'antisémitisme au cœur de votre système pour justement vous créer une armée et vous créer des militants. Sincèrement, oui, vous êtes dans une dérive.
Mais extrême droite, l'extrême gauche a absolument.
Oui, c'est moi. Ce que je veux dire, c'est que extrême gauche, on vous fait aucun procès. Vous pouvez tout faire si on vous qualifie d'extrême gauche. Aujourd'hui, il y a aucun problème. Si on vous qualifie d'extrême droite, vous êtes mort socialement. Vous êtes mort.
Bah oui, c'est l'étiquette qui.
Donc moi, j'estime que ce qu'il fait mérite l'opprobre Et s'il faut le qualifier d'extrême droite pour qu'il ait l'opprobre, pourquoi pas? Je ne vois pas, en fait, ce qui fait que cet homme ne peut pas être qualifié
d'extrême droite. Moi, je trouve que le qualificatif de dérive antisémite suffit. Est-ce qu'il y a toujours besoin de renvoyer à l'histoire? Est-ce qu'il y a toujours besoin de prendre des référents qui nous ramènent à Hitler? Je fais partie d'une génération qui en a un peu marre de ça et qui a vu ça utilisé vraiment à toutes les sauces. Dès que quelqu'un ne pense pas convenablement, hop, on le qualifie de suppôt du nazisme, quand c'est pas de pétiniste, quand c'est pas de etc etc. Moi je trouve que ça rend pas service à la critique. La critique, elle est juste quand on dit que la LFI est en train de devenir un parti qui flatte l'antisémitisme en France, qui joue de l'antisémitisme à des fins électoralistes, et ça suffit.
En tous les cas, les propos font beaucoup réagir. On y reviendra, vous avez encore beaucoup de choses à dire. On va marquer une pause, et vraiment le GIGN, on va s'y arrêter. On fera attention à ce reportage, c'est impressionnant. Et ce sont vraiment des unités d'élite qui nous protègent. Alors au quotidien, non, mais pendant des moments extrêmement compliqués, paroxystiques, heureusement, de la vie. Mais malheureusement, nous avons connu tellement de chocs en France ces dernières années. Vous allez voir vraiment l'efficacité, la technicité de ces hommes. GIGN, Trump et beaucoup de choses aussi. Vous verrez, ça a choqué beaucoup de monde sur les réseaux sociaux et au-delà. Ce policier qui a été percuté sciemment par une moto par un délinquant. Quelle justice dans ce cas-là? Quelle sanction? On en parle à tout de suite. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets à venir. Le GIGN, nous parlerons aussi tout à l'heure de ce policier percuté pour un refus d'obtempérer. Les chiffres de la délinquance également. Ah bah vous allez voir. Là, les chiffres têtus, noir sur blanc, avec la surreprésentation de la délinquance étrangère. Que faire dans ce cas-là? À quoi servent ces chiffres? Et je précise, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. On en parlera après vos titres, cher Mickaël.
Déjà plus de 50 000 euros récoltés en soutien au gérant du magasin Geox de Strasbourg. L'homme avait reçu des menaces de mort depuis qu'une vidéo le montrant refoulé. Une intérimaire voilée a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les professionnels du BTP tirent la sonnette d'alarme. En moyenne, une entreprise du secteur sur deux est victime d'au moins un vol d'engins de chantier par an. À chaque fois, le préjudice est très conséquent et ça se compte souvent en dizaines de milliers d'euros. Et puis aucun juré retenu pour le moment au procès de Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir falsifié des documents financiers. Plus de la moitié d'un premier groupe de 96 jurés potentiels ont déjà été exclus à leur demande pour le manque d'impartialité.
On sera justement dans quelques instants à New York avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Et ce qui est incroyable, vous verrez comment ça se passe, hein, les auditions, parce que le président du jury, il l'appelle Monsieur Trump. Non, pas de président de la République ici. Monsieur Trump, oui. Si vous avez une minute de retard, on vient vous chercher, me noter, etc. Donc entre les deux, évidemment, vous
voyez. Ça nous rappelle quelque chose.
Voilà, et vous allez voir que c'est très tendu. Mais pour l'heure, vraiment, si vous en êtes d'accord, rendre hommage à cette unité d'élite. C'est une unité qui intervient lors de prises d'otages, lors d'attaques terroristes. Le GIGN fête ses 50 ans d'existence, alors que la menace terroriste, vous le savez malheureusement, est au plus haut dans notre pays. CNews a pu suivre les membres du GIGN dans un exercice d'intervention qui est inédit, qui est impressionnant. Vous allez voir, c'est sur l'eau et c'est une prise d'otage en plusieurs étapes. Comment, dans ces cas-là, ils réagissent? Moi, j'ai eu l'impression, attention, ils agissent dans la réalité. Malheureusement, c'est comme une série en réalité. C'est tellement impressionnant que vous avez l'impression de suivre une série. Et malheureusement, eh bien, ça nous est tellement arrivé dans notre pays avec de nombreux chocs terroristes. Hommage à l'action de ces membres du GIGN. Regardez ce reportage signé Thibaut Marcheteau et Sandra Buisson.
L'alerte retentit. En croisière sur la Seine, cette péniche pouvant transporter 150 passagers vient d'être prise d'assaut par des terroristes. Un exercice attentat grandeur nature pour le GIGN, ces hommes doivent libérer la soixantaine d'otages retenus. Ils ont choisi un assaut nautique puis aérien du navire de trois ponts et 125 mètres de long. En survol, un tireur d'élite a trouvé le moment propice pour neutraliser l'assaillant qui était sur le toit du bateau.
Le but étant d'être fulgurant et donc de pénétrer très rapidement par différents points. Comme ça, on s'affranchit du risque de piégeage et du risque de blocage surtout. Et donc, c'est d'arriver le plus vite possible dans les zones de rétention d'otages.
Avant de reprendre le contrôle du navire, les hommes du GIGN ont recueilli le maximum d'informations sur les passagers, le nombre de terroristes, leurs armes, leur localisation, en échangeant directement avec des otages et en utilisant des moyens spéciaux.
On a un qui rose.
Ok, il est neutralisé.
Ça passe par des chiens, bien sûr, ça passe par des drones, drones volants, drones roulants, par des différents types de caméras thermiques, infrarouges, qui nous permettent, en fonction des circonstances, de nuit, de jour, dans des zones de pénombre, de pouvoir identifier et travailler en sécurité, et surtout de mettre toutes les chances de notre côté.
Les 5 terroristes sont rapidement neutralisés. Il faut dépiéger les gilets explosifs. Le médecin de l'équipe évalue les blessures pour orienter les prises en charge. Les militaires vérifient ensuite une à une les dizaines de cabines et de salles du navire pour s'assurer qu'il ne reste aucun assaillant et aucun otage caché.
Voilà, je pense que c'est l'occasion pour nous tous de dire ou de redire à ceux qui servent, qui ont servi, notre reconnaissance et notre admiration. Merci au GIGN de nous protéger. C'est vrai qu'on était en train de vérifier avec vous tous s'il y avait des femmes. Parce que je disais membre, parce que je ne savais pas si je devais dire homme ou femme. Il y a des femmes, plus dans les, comment dire, dans les domaines d'observation que d'intervention. Ce n'est pas du tout sexiste, mais c'est des conditions très particulières qui sont recherchées. Et c'est vrai qu'en regardant cet exercice, on s'est dit, j'espère qu'on sera préservé de ça, mais voilà, on imagine ce qui pourrait se passer sur la scène au moment des Jeux Olympiques. Mais heureusement, notre président a dit qu'il y a un plan B, un plan C, un plan D, E, F, Z, B, bis, B...
Il a juste oublié, apparemment, d'en avertir les organisateurs des Jeux Olympiques. Mais
quand il y a, Judith, une menace comme ça, quand les renseignements sont les renseignements qui affirment qu'avec un tel événement, la menace est si forte, le mot de la fin revient au président de la République pour choisir
En France, oui. Ça, c'est les restes du régime monarchique que continue d'être la République française. Le président est tout puissant, notamment en ce qui concerne les fêtes, les événements et les bâtiments historiques.
Mais jusqu'à maintenant, c'était complètement exclu parce que ça a été abordé plusieurs fois. Là, on peut penser qu'il a eu des éléments qui font qu'il peut...
Oui, apparemment, il est moins allant.
On a même le lieu de repli, puisque ce serait le Trocadéro. Non, ce qui est, on est en train de préparer. Voilà, on est en train de préparer en fait l'opinion publique à
une possible cérémonie à minima. Mais tant mieux. Mais l'opinion n'attend pas faste.
Je pense que l'opinion l'a déjà.
Des grandeurs, on en est loin.
Et elle préfère des gens vivants.
Alors, les valeurs de ces personnes, de ces membres du GIGN, j'aimerais qu'on rende hommage encore à ce qui est
Moi, je voudrais dire un mot sur l'évolution du GIGN aussi, parce que c'est un corps qui a 50 ans, vous le rappeliez, mais c'est un corps aussi qui s'est aujourd'hui délocalisé. Il y a 14 antennes du GIGN un peu partout sur le territoire, à la fois en métropole et également dans les territoires d'outre-mer. Et il se trouve qu'on en parle à l'occasion de prise d'otages, on en parle à l'occasion de terrorisme, mais c'est aussi un corps d'élite qui va être amené de plus en plus à intervenir dans les règlements de compte entre trafiquants de drogue, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi là que ça se passe, que l'hostilité se fait jour et que l'on voit que les policiers lambda ou des gendarmes lambda qui ne sont pas préparés, pas équipés, ne peuvent plus intervenir face à des trafiquants de drogue qui, eux, sont équipés de Kalachnikov. Donc, le GIGN, j'ai envie de dire, a de beaux jours devant lui encore.
J'ose dire, bien sûr. Mais oui, mais il faut d'ailleurs faire en sorte qu'ils aient encore plus de moyens. Mais ils sont équipés ou armés d'autre chose, d'un esprit d'abnégation. Vraiment, je disais bravoure, héroïsme, même ce sont des mots qui, pour certains, sont datés. Ça me rappelle d'ailleurs, quand je le dis, ça me fait penser tout de suite à Arnaud Beltrame. Ce sont des valeurs aujourd'hui. C'est important de fêter, je trouve, en ce jour. Même tous les responsables politiques devraient leur rendre hommage.
Mmh. Et là, c'est des images d'archives du GIGN que vous voyez avant. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de
1976.
Voilà, c'est de voir à l'époque, ils sont filmés visage découvert. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Parce que la menace qui pèse sur eux est tellement forte, ça dit quelque chose de l'évolution de nos sociétés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la menace est tellement diffuse et profonde qu'on va même protéger les agents d'intervention. Dans les années, avant les années 80, finalement, ils étaient reconnus, acceptés. Et je pense que ça dit quelque chose de la déchéance de notre temps, ça aussi.
Alors, qui peut devenir membre du GIGN et intégrer cette unité d'élite? Je ne sais pas, vous qui nous regardez, les plus jeunes, peut-être certains. Alors, ne devient
membre ne devient d'abord pas membre du GIGN qui veut, chaque année un appel à volontaires, c'est intéressant, je ne sais pas, est lancé au sein de la gendarmerie. Ils sont environ 400 à y répondre pour intégrer le GIGN central ou l'une des 14 antennes, 7 en métropole et 7 en outre-mer. Et c'est à la fois des exercices évidemment physiques, mais aussi de résistance mentale.
400 pour combien de places ?
Morale, très très peu. Dans les doigts d'une main.
Je crois que c'est extrêmement sélectif.
C'est 10% seulement qui reste.
Exactement. Mm. Bon, bah, écoutez, l'appel à la candidature chaque année est lancé. Alors, nous sommes loin de ces valeurs-là, mais je ne porte pas un jugement. Je voudrais passer au procès de Donald Trump quand même. Vous me disiez, nous sommes un président américain de la puissance américaine. Nous sommes dans un procès pour paiement. Alors, on dit star du X, oui, c'est une prostituée. Hein.
Oui.
Non, parce qu'on dit star, c'est pas une question de voilà. Non.
Pas prostituée, elle a été payée pour ne pas parler, pas pour ses services, pas pour ses prestations.
Mais on dirait que je ne porte pas d'avis. Il n'y a pas d'avis moral. Mais je veux dire, c'est pas une question que parce que c'est voilà, il n'y a pas de star ou pas de star.
C'est non, le délit, d'avoir voilà payé.
C'est celui-là.
Par de l'argent dissimulé.
Alors, écoutons Donald Trump parce que ça commence. Ces premiers jours, ça va durer 8 semaines. Si ça va durer 8 semaines avec le même niveau, le même climat de tension entre le président du jury et Donald Trump, ça promet. Écoutons-le.
Nous avons un vrai problème avec ce juge. Nous avons un vrai problème avec beaucoup de choses liées à ce procès, y compris le procureur. Ce procès est une escroquerie. Si vous lisez tous les experts juridiques, tous les juristes d'aujourd'hui, je n'en vois aucun dire que cette affaire devrait être intentée ou jugée. C'est une escroquerie, une chasse aux sorcières politiques qui se poursuit indéfiniment et nous n'aurons pas le droit à un procès équitable. C'est vraiment très triste.
Bonjour, Monsieur Trump, a déclaré le juge Juan Mercan en entrant dans la salle sans dire Monsieur le Président Trump, comme le veut l'usage aux États-Unis, manière de rappeler que l'ancien dirigeant ici n'est qu'un simple citoyen. Le juge a également rappelé à l'audience que, comme n'importe quel prévenu, il doit se présenter à l'audience chaque jour, à l'heure, sous peine d'être recherché par les autorités, manu militari, et qu'il pourrait être renvoyé en prison s'il perturbait d'une manière ou d'une autre l'audience. Ça commence quand même. Alors, les enjeux d'un tel procès, résumés par notre correspondante Elisabeth Guedel.
Donald Trump en est persuadé. Il ne peut pas avoir un procès équitable à New York, une ville très majoritairement démocrate, une ville qui contrôle selon lui la justice. Il accuse le juge Merchant, qui préside son procès, de ne pas être impartial. Un juge qui a refusé toutes ses demandes, demande de délocaliser le procès en dehors de New York, demande de repousser l'ouverture des audiences à la fin de l'année après le scrutin présidentiel. Et puis un juge qui refuse de se récuser alors que Donald Trump accuse sa fille de travailler pour le parti démocrate. Épreuve supplémentaire pour le candidat républicain à la présidentielle qu'il ne peut pas être jugé à New York. La difficulté de trouver un jury, de sélectionner 18 New-Yorkais, 12 jurés et leurs suppléants qui n'ont pas d'opinion tranchée sur Donald Trump. Lors de cette première audience, sur les 96 jurés potentiels présentés, plus d'une cinquantaine, plus de la moitié, ont dû quitter le tribunal. Ces personnes avaient reconnu qu'elles étaient incapables d'être impartiales dans cette affaire. Donc aucun juré n'a encore été sélectionné. Cette première journée d'audience a donné le ton pour les 6 à 8 semaines à venir.
Incroyable. Vous imaginez, vous êtes sélectionné en tant que juré pour participer à ce procès qualifié d'historique. Vous dites oui ?
Bah oui, bien sûr.
Oui.
J'aurais peut-être l'honnêteté de dire que je ne pourrais être impartiale tellement j'ai beaucoup de mal avec l'attitude de Donald Trump. Donc peut-être que je me récuserais par honnêteté vis-à-vis de la justice.
Bravo, mais nous on irait tous. Rien que pour y assister.
Claire, bien sûr.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vrai que ça passionne au-delà des États-Unis et que ça peut avoir un impact, non pas seulement sur la vie politique américaine, mais pour le reste du monde. Pour l'heure, je vous parlais de ces chiffres de la délinquance. Je voudrais vraiment insister pour vous qui nous regardez. Ce sont des chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Ils ne sont pas imaginés, ils ne sont pas déformés, ce sont des chiffres bruts. La plupart des indicateurs de la délinquance sont en hausse pour l'année 2023. Et quand on va dans le détail, ligne par ligne, on constate une surreprésentation écrite noir sur blanc pour les étrangers dans tous les faits, quels que soient les faits de délinquance en tout genre. C'est résumé par Maxime Leguet, on en parle juste après.
C'est un sujet hautement inflammable. le profil des mises en cause pour des faits de délinquance. Selon le service statistique ministériel de la Sécurité intérieure, en 2023, toute infraction confondue, 17% des mises en cause sont des ressortissants étrangers, hors binationaux, soit une proportion plus de deux fois supérieure à leur part dans la population générale. Sur certains types d'infractions, cette surreprésentation est encore plus significative. Ainsi, les étrangers représentent 40% des mises en cause pour vol dans les véhicules, 38% pour les cambriolages et 31% pour les vols violents sans armes. Des chiffres qui sont tous en augmentation. Dans le détail, 39% des mises en cause pour les infractions perpétrées dans les transports sont des étrangers ressortissants de pays d'Afrique, soit une proportion 11 fois supérieure à leur poids démographique. Les étrangers africains représentent également 60% des mises en cause pour vols sans violence dans les transports, 50% pour les vols avec violence et 29% pour les violences sexuelles. Des chiffres qui viennent s'ajouter à des données préexistantes. En 2022, les étrangers représentaient 25% des détenus dans les prisons françaises.
Et on en parle juste après les titres avec vous, Mickaël.
Achille Tiguem, un mineur de 17 ans, a délibérément foncé à moto sur un policier qui lui demandait de s'arrêter. Il faisait du rodéo à la sortie d'une école. Il a renversé l'agent de police avant de prendre la fuite. La bourse de Copenhague ravagée par les flammes, une flèche haute de plus de 50 mètres est déjà partie en fumée. Les pompiers danois restent à pied d'œuvre pour tenter de limiter les dégâts. Et puis le GIGN souffle sa 50e bougie. Pardon. Le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale a été créé en 1974 pour répondre aux situations les plus extrêmes sous la devise « S'engager pour la vie ».
Merci Mickaël. On va parler des chiffres de la délinquance, décidément, à la surreprésentation des étrangers. Mais je voudrais quand même, chaque jour j'insiste sur ce point, pourquoi on n'a pas les chiffres des attaques au couteau ? Par exemple, aussi précisément qu'on a
2018,
ils ne sont plus recensés.
Mais l'observatoire
de la délinquance.
Non, mais je veux pas avoir quelque chose de malin dans tout ça. Mais pourquoi, quand on a, est-ce qu'on dit vrai quand on dit qu'il y a une multiplication des attaques au couteau ou pas?
La dernière fois qu'on a eu des chiffres, comme dit Naïma, c'est-à-dire 2018, c'était 120 par an. Hein.
120 par jour.
Par jour, oui.
Par jour, 120 par jour.
Pardon.
Ah oui, 120 par jour. Et d'ailleurs,
M. Roffer... Tentative, hein, attention.
Sur votre plateau...
Oui, mais on n'a pas ces chiffres.
Et en plus, c'est hors domicile, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est pas intrafamilial.
Familial.
Hors intrafamilial. Oui, voilà, c'est ça.
Mais je serais vraiment le ministre de l'Intérieur. Ouais. Je ferai en sorte que ces données soient disponibles.
Bah oui.
Mais pas dit.
Mais de toute façon...
C'est-à-dire, si vous avez envie d'un avenir politique, peut-être pas. C'est-à-dire, tout dépend de ce que les chiffres vont dire. Si, pendant le moment où vous êtes au pouvoir... Vous constatez, on voit ces attaques au couteau monter, et pendant que vous êtes en pleine rodomontade, en mode « ne vous inquiétez pas, la République ne lâchera, ne reculera pas d'un pas face au crime », et qu'en fait, toutes les statistiques qui tombent montrent qu'en fait, non seulement elle recule de 10 pas, mais que des fois, elle a même les fesses par terre et qu'elle n'arrive même plus à lutter, là, vous êtes très très mal. Donc aujourd'hui, le problème du refus de ces statistiques, c'est que ça alimente une méfiance de la population qui pense que le politique lui cache les choses parce qu'il fait mal son travail. C'est stupide.
Mais en fait, l'objectif de tout le monde, normalement, hein, c'est de poser le diagnostic, les chiffres, et de voir comment on réagit.
Vous savez, il y a deux manières de lutter contre la fièvre. Il y a soit vous prenez un antalgique, quel qu'il soit, soit vous cassez le thermomètre. Et c'est ce que fait le ministère de l'Intérieur, évidemment. Alors, il fallait consacrer quand même quelques moyens pour analyser ces chiffres. C'est-à-dire que, si vous voulez, une attaque au couteau, ça peut être une tentative d'homicide, ça peut être un vol avec violence. Vous voyez, ça rentre dans plusieurs catégories. Donc, il fallait mettre des moyens pour analyser un peu plus finement ces chiffres, et malheureusement, on a choisi de les mettre ailleurs, ces moyens.
Alors, les moyens existaient, puisqu'il y avait l'Observatoire national de la délinquance.
Mais c'était cassé, l'Observatoire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on l'a dissous, et on a rapatrié les chiffres, en partie à l'INSEE et en partie au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous comptez sur le ministère de l'Intérieur pour publier des chiffres qui prouve qu'il n'arrive pas à garantir la sécurité des Français? La réponse est dans la question.
Alors, quand vous avez des chiffres têtus, noir sur blanc, comme ceux-là, alors là, ils sont disponibles. Vraiment, pouvez aller les voir, aller vous-même faire votre propre idée, voir la progression des pourcentages et tirer les conclusions qui s'imposent.
Mais souvenez-vous, Sonia, ces chiffres, on les a eus. On les a eus au départ, ça a été des chiffres qui sont sortis, c'était en Suède, c'était dans d'autres pays. L'Allemagne. Et quand ils sont sortis, personne n'a osé les reprendre parce que dès que vous osiez les pointer et expliquer qu'a priori ce qui devait se passer là-bas devait se passer chez nous aussi, vous vous faisiez traiter de fascisme, vous faisiez le jeu de l'extrême droite, etc. Et donc, pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite, on a caché des statistiques. Le seul problème, c'est que les gens finissent par avoir une vague idée. Enfin, ils soupçonnent qu'on leur cache des choses. Et on alimente encore plus le ressentiment et la défiance. Et surtout, tous ceux qui osent parler... ils subissent un tel opprobre social qu'après, quand les chiffres sortent, ils se disent bah, « maintenant, allez-y,
mais nous, qui peut croire qu'on ne va pas aller voir les statistiques? Elles sont disponibles, je veux dire, c'est quand même... Non, mais ça participe vraiment d'un esprit politique qui devient...
Les gens le voient bien, mais regardez, qui les a utilisés jusqu'à présent, ces chiffres? Qui les sort? Qui fait des articles dessus? Non, mais en fonction des journaux, on va très peu traiter l'information, au contraire, la mettre très en avant. On est déjà, il y a ce côté ne pas faire le jeu de l'extrême droite qui en est arrivé à justifier le mensonge ou au moins la dissimulation de certaines informations. Et c'est dommage parce que du coup, ceux qui les sortent sont mis en accusation. Et malheureusement, ce qu'on est en train de voir, c'est ce qui avait été dit sur l'antisémitisme, sur la montée de l'islamisme, sur la délinquance. Tous ces gens qui ont été cloués au pilori avaient raison. Plus le temps passe, plus les statistiques le disent et plus les faits le montrent.
Mais attention, on parle d'étrangers. Donc théoriquement, ouais. Pour qu'ils partent du territoire et du sol hexagonal, c'est une évidence.
Mais c'est ça le problème.
Voilà.
C'est
que vous avez des délinquants étrangers.
Une fois qu'on connaît les chiffres, qu'est-ce qu'on fait?
C'était ma question.
C'est toute la question.
Est-ce qu'on a amélioré l'exécution des obligations
qui étaient pour que quelqu'un, même un étranger, réalise sa peine d'abord
dans son pays d'origine.
Dans son pays d'origine.
Ah oui, moi je suis. Oui.
Et pas en France.
Déjà, ça libérerait des places de prison.
Mettre en place.
Certains disent que si l'acte est commis sur le sol hexagonal, il doit y répondre sur le sol hexagonal.
C'est le droit.
Bah oui.
C'est pas certain.
C'est la semaine dernière.
Oui, non.
Personne sous.
Et dans le débat ensuite,
le droit ça change.
Ah oui.
Qui se baladait avec
un fusil.
Je crois, mais plus qu'un fusil.
Bref, mais vous êtes pour qu'il fasse sa peine.
Mais moi, je pense que, vous savez, dans les relations avec les différents pays, on pourrait avoir, dans le cadre des relations, de co-développement, des choses comme ça, et même dans des relations d'entente, etc., faire en sorte que quand vous avez France, par exemple, des personnes qui ont commis un délit, qui sont étrangères, qu'on puisse négocier pour qu'elles puissent le faire dans leur pays d'origine.
On peut en parler après, on a marqué la pause.
Ah bon, pardon.
Mais non, mais vous excusez pas, vous aurez tout le temps. Policier syndicaliste Denis Jacob va être avec nous. Je voudrais le faire réagir à ces statistiques. Vraiment beaucoup de réactions après ce policier qui a été sciemment, vous allez voir ces images, vous les avez sans doute vues dans le journal, visé par ce délinquant à moto. Dans ce cas-là, quelle peine, quelle justice? Parce que là, on ne parle pas simplement d'un rodéo. Hein. Là, il y a eu véritablement une intention de s'en prendre à un policier. Je vous montrerai également cette liste Free Palestinians européenne. Là, vous nous direz ce que vous en pensez. Puis nous parlerons de ce qui nous pend. Je dis nous tous, c'est les conséquences de la riposte israélienne qui se précisent. On en parle juste après la pause et on vous attend. À tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News. La suite avec ces images impressionnantes et hautement condamnables, évidemment, de ce policier municipal qui tente de mettre fin à un rodéo près d'une école et qui est violemment et sciemment percuté par un délinquant à motocross. On va en parler. Nous parlerons également de la liste Free Palestine aux européennes, une nouvelle liste qui vient rejoindre la trentaine qui existe déjà, mais évidemment... Celle-ci pose de nombreuses questions, pose problème et suscite la polémique. On en parlera après le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Pour Benjamin Netanyahou, l'agression iranienne envers Israël menace la paix mondiale. Et malgré les appels à éviter l'embrasement, le chef d'état-major de Tzal a promis une riposte à cette offensive sans précédent. Écoutez le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi.
Nous regardons vers l'avenir, nous envisageons nos prochaines actions. Et ce lancement de tant de missiles de croisière et de drones dans le territoire de l'État d'Israël sera accueilli par une riposte.
Et face à ces déclarations, nous sommes avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Bonjour Régine. Alors 48 heures après cette attaque, dites-nous quel est le sentiment des Israéliens après ces annonces de l'armée face à cette riposte qui semble inévitable.
Eh bien, Michael, les Israéliens ici attendaient cette annonce du gouvernement israélien, puisqu'après cette attaque massive, il était hors de question pour les Israéliens qu'il n'y ait pas de réponse. Mais ils restent partagés sur les modalités de cette riposte. Certains nous parlent d'opérations ciblées et plus tard dans le temps, puisque beaucoup estiment que la population iranienne ne doit pas être l'otage donc de ces attaques. D'autres nous parlent d'une riposte immédiate et massive. On a appris aussi hier que Benjamin Netanyahou avait annoncé donc qu'il voulait reculer l'opération à Rafah. Cela divise les Israéliens puisque cette opération à Rafah, elle est censée éliminer les derniers bastions du Hamas et surtout libérer les otages. Je vous rappelle qu'il y a 133 otages dans la bande de Gaza, dont 3 Français. Et en fait, donc les Israéliens veulent avant tout donc cette libération. Pour eux, l'Iran est responsable des attaques du 7 octobre. Donc, de toute façon, il faut frapper l'Iran. Et évidemment, les déclarations, que ce soit du chef d'état-major de l'armée ou de Benjamin Netanyahou, les a rassurés.
Merci beaucoup Régine Delfour en direct de Tel Aviv. Dans ce contexte et à l'approche des fêtes de Pessah, la Pâque juive, la vigilance autour des lieux de culte va être renforcée. Gérald Darmanin l'a annoncé, il ne veut prendre aucun risque face au contexte international. Et du côté des Français de confession juive, leur crainte est bien réelle. Ils ont le sentiment de devoir adapter leur mode de vie en permanence. Écoutez.
C'est sûr qu'on est beaucoup plus vigilant qu'avant, ça c'est sûr. On fait plus attention où on va, on fait attention avec les enfants, on fait attention à ne pas trop traîner pour rien dans la rue, etc. Ça, c'est sûr.
Le message du 7 octobre, le message de l'attaque de l'Iran samedi soir, c'est de dire, bien, vous, juifs du monde entier, sachez que vous n'aurez pas un répit sur aucune terre de ce monde.
Dans le reste de l'actualité, un Français de 31 ans récompensé pour sa bravoure après l'attaque de Sydney, attaque qui a fait, je le rappelle, 6 morts et plusieurs blessés samedi. Damien Guéraud a brandi un poteau face à l'agresseur pour tenter de le stopper. Il a été félicité sur X par Emmanuel Macron. Et puis à 100 jours des JO, la flamme olympique a été allumée, comme le veut la tradition, au sanctuaire d'Olympie, le berceau des Jeux antiques. C'est parti pour un périple de 5000 km à travers la Grèce. La nageuse Laure Manaudou est la première relayeuse française. La flamme arrivera à Marseille le 8 mai prochain.
Ça y est. Vous avez vu que tout le monde regarde pour voir si vraiment la flamme, si on a allumé le feu ou pas. Merci d'être avec nous. Merci, cher Michael, à tout à l'heure. Bonjour à vous, Denis Jacob.
Bonjour, Sonia.
Merci Malouk. D'être avec nous, secrétaire général Alternative Police, toujours avec Judith Vintraub, avec Frédéric Durand, avec Stéphane Simon, avec Naïma Mfadel et Céline Pina. Alors, ce sont des images, je le dis, choquantes. Hautement condamnable, parce que vous allez voir la manière avec laquelle, en toute impunité, ce délinquant en motocross va heurter ce policier municipal. D'abord, vous allez nous dire si vous avez des nouvelles, je ne sais pas, de votre collègue. On va aller voir. Je précise simplement le contexte que ce policier, il essayait en fait de protéger des enfants qui sortaient d'une école quand il a constaté qu'il y avait ce rodéo. Et vous allez voir la manière avec laquelle le délinquant vise. Je ne veux pas qualifier ce qui s'est passé, mais enfin, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Regardons ce sujet de nos équipes avec Augustin Donadieu.
Le choc est d'une rare violence. Alors que ce policier municipal tentait de mettre fin à un rodéo sauvage juste devant une école de la banlieue strasbourgeoise, il est percuté par le délinquant de la route et projeté au sol.
Donc, il lui a fait plusieurs injonctions pour lui demander de stopper son engin. Et ce dernier a délibérément foncé sur notre collègue de la police municipale, le renversant. Et à l'issue de ça, il a pris la fuite et a été interpellé quelques instants après. Notre collègue de la police municipale transporté à l'hôpital.
Malgré la douleur, le fonctionnaire se relève et poursuit le délinquant de la route. Le jeune âgé de seulement 17 ans qui était au guidon de la moto non homologuée sera interpellé rapidement. Selon le syndicat Alliance, ces rodéos sont monnaie courante à Strasbourg et dans ses environs.
On a des vidéos choquantes, où on a même parfois des déambulations de hordes de motos qui circulent dans certains quartiers avec justement ces motos non homologuées. Ça fait effectivement un trouble à l'ordre public assez important.
Le policier percuté a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une suspicion de fracture au poignet et de multiples contusions.
Je ne sais pas si c'est approprié refus d'obtempérer, parce que là, on est passé à autre chose. Là, ils sont prêts à tout, hein, ces délinquants. Ils n'ont peur de rien, de rien. Ils sont prêts à tout, une forme de sauvagerie, à s'attaquer directement, à foncer sur le policier municipal.
Il a d'autant peur de rien qu'il faut savoir qu'avant cette vidéo, il y a déjà une première action d'un autre policier municipal pour essayer de l'empêcher de continuer son rodéo. Et moi, je salue ce qu'a fait le collègue. Il a pris des risques très importants au péril de sa vie pour protéger des enfants, vous venez de le dire. C'est le quotidien et c'est pas propre à la banlieue de Strasbourg, malheureusement. C'est partout en France, plus particulièrement dans les quartiers dits difficiles. Mais on arrive au printemps, à l'été, je dirais en termes de journalisme, on appelle ça un marronnier. Tous les ans, c'est la même chose. Cette période qui commence à faire beau, eh bien, ils ressortent les motos. Souvent, ce sont des motos volées, non homologuées. Et ça pose la question, quand on arrive à les interpeller, de qu'est-ce qu'on fait de ces motos. Alors, il y a des textes qui sont passés au ministère de l'Intérieur de façon à ce qu'on puisse les détruire systématiquement. Mais ça ne suffit pas. Et naturellement, une fois de plus, on en revient sur la réponse pénale qui n'est pas au rendez-vous pour ces individus. Donc, je salue le courage de ce collègue policier municipal. Au moment où je vous parle, les nouvelles que j'ai pu avoir, c'est qu'il lui restait des examens à passer parce qu'a priori, il y aurait une suspicion de fracture du poignet. Alors naturellement,
mais
il a des...
C'est grave, mais c'est rien par rapport à ce que...
Il aurait pu se faire tuer parce que là, compte tenu le violence, contexte et la tentative première d'un autre policier municipal de l'interpeller, on pourrait qualifier ce qu'il a fait là comme une tentative d'homicide volontaire.
Respect pour lui, hein, parce que, je ne sais pas, vous voyez, vous allez voir en bas à droite de l'écran, regardez, il y a une maman
avec son
poussette. Non, mais je veux dire...
Moi, je salue l'action de ce collègue, parce qu'en plus, c'est un policier municipal. Et vous savez, on a eu le débat sur votre plateau il y a quelques jours, Sonia Mabrouk, sur le positionnement de la police municipale en tant que force d'intervention. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'armée pour qu'il tire, hein, ce n'est pas le débat, mais ça démontre bien que la police municipale, comme la police nationale, ont des missions particulièrement dangereuses et que je pense qu'à un moment donné, il va falloir véritablement voir le statut du policier municipal. Parce qu'aujourd'hui, c'est une double autorité, ministère de l'Intérieur et maire. Et je le disais aussi la semaine dernière, il y a le Beauvau de la police municipale qui va s'ouvrir prochainement. Je pense que c'est l'occasion de revoir le statut du policier municipal.
Je voudrais qu'on s'y arrête, parce que notre journaliste, Michaël Chailloux, est allé à Nantes. Vous savez qu'elle est... la maire de Nantes et d'autres mairies de gauche ne veulent pas, pour la plupart. Lille, Martine Aubry ne veut pas. Elle ne voulait pas pour la vidéosurveillance et ensuite, par pragmatisme, on va dire un peu tardif, mais elle l'a accepté. Est-ce que ça sera le cas pour la police municipale? Ce qui m'intéresse, c'est l'argument qui est mis en avant par certaines mairies de gauche. Elles disent, mais ce n'est pas de la... ce sont les prérogatives de l'État. Donc c'est à l'État de défendre et ce n'est pas aux policiers municipaux d'être armés pour faire face à l'insécurité. J'aimerais bien que vous répondiez une fois pour toutes sur ça.
J'entends ce que vous me dites, Sonia Mabrouk. Alors pourquoi ils ont des policiers municipaux si c'est une mission régalienne de l'État? Je veux dire, à un moment donné, on a une police municipale pour faire quoi? Pour faire de la police de proximité notamment. Mais la police de proximité, ça ne veut pas dire que de la prévention.
Denis, s'il se passe quelque chose, mais moi...
On est bien d'accord.
Moi, une fois, j'avais Anne Hidalgo en studio, c'était à Europe 1, et je lui avais dit, la police municipale, et je lui avais dit, Madame le maire, s'il y a un attentat, il y a quelques années, et qu'il y a un policier municipal qui n'est pas loin, que faire? Eh bien, elle m'en a voulu, je n'ai plus revenu, parce que j'ai émis cette hypothèse, elle me disait, mais vous faites monter la crainte. Je dis, mais c'est possible, il y a un policier municipal pas loin d'une scène.
Sans aller jusque-là, Sonia, vous avez, je le disais, les policiers municipaux sont aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, les primo intervenants. Ils interviennent sur un braquage. Ils ne sont pas armés, ils font quoi? Ils font « Allô, la police, vous pouvez venir ?»
Oui, mais vous savez qu'à Paris, non seulement ils n'ont pas d'armes létales, mais ils n'ont même pas de pistolet à impulsion électrique.
Juste après, Céline, c'est à vous, parce que je voudrais juste qu'on plante le décor, parce qu'ils ne sont pas armés. Et alors, les mairies de gauche, certaines, en tout cas, affirment qu'ils ont d'autres armes.
Oui, ils ont les tasers.
Non, les armes.
Pas toutes les polices municipales.
Non, il y a pourquoi est-ce que c'est de l'ordre du régalien et pourquoi est-ce que c'est de l'ordre du national? Parce que en théorie. Le national vous permet d'apporter à peu près la même couverture de sécurité à tous les habitants sur tout le territoire. Si vous armez la police municipale et que vous en faites une vraie force sur place, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, rappelez-vous, vous avez des endroits où il n'y en aura pas. Dans les petits villages, dans les petits regroupements de communes, vous n'avez pas les moyens d'avoir une force de police municipale, encore moins de l'armée, encore moins de lui donner de vrais... Ça coûte, ça coûte une blinde, un gilet pare-balles, par exemple, un bon, ça coûte extrêmement cher. Tous les équipements coûtent très cher. Ensuite, en fonction des territoires, vous aurez des territoires extrêmement riches qui seront extrêmement bien dotés, là où paradoxalement, ce n'est pas là où il y a le plus d'atteintes aux personnes et le plus de violences. Sur les territoires qui, eux, sont les plus exposés, vous aurez en fait une sous-force parce qu'il n'y aura pas les moyens
Les moyens seront mis ailleurs.
Donc le risque, mais la grande peur des collectivités locales, c'est en créant des forces de police vraiment performantes,
on va regarder le reportage,
de voir la police nationale baisser, l'investissement de l'État baisser, pour à la fin un territoire un peu abandonné quand même.
Le sujet, nous sommes à Nantes et notre journaliste Mickaël Chaillot, elle est... comprendre, expliquer pourquoi il y a cette c'est même pas une réticence, là c'est un objectif presque politique, ils y tiennent, de ne pas armer la police municipale, regardez.
À Nantes, les 130 policiers municipaux sont équipés d'un pistolet à impulsion électrique, modèle X2. Même si la municipalité socialiste a beaucoup évolué et investi sur la sécurité, équiper la police municipale d'une arme létale reste un tabou.
C'est une décision personnelle et politique, c'est ce que l'élu nous a rétorqué l'année dernière lorsqu'on lui a clairement posé la question du pourquoi on ne nous équipe pas d'armes létales. Tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nous dépendons de la police nationale pour notre sécurité. Je voudrais simplement que mes collègues et moi-même puissions nous défendre et protéger les Nantais seuls.
Les fonctionnaires de la police nationale soutiennent la revendication des municipaux. Au syndicat Unité, on estime que la majorité municipale nantaise doit sortir d'une position dogmatique sur la question, car la rue a évolué.
Pour les délinquants moyens, il n'y a pas de différence entre un policier municipal et un policier national. Quand il est dans la rue, c'est un uniforme. On a pu le voir dans des occasions, à Nice notamment, où c'est la police municipale qui était intervenue les premiers. Et s'ils n'avaient pas été armés, ils n'auraient pas pu neutraliser le terroriste.
Dans un sondage réalisé en interne il y a quelques jours, les policiers municipaux nantais se sont prononcés à 98% pour être équipés d'une arme létale.
Non mais... Voilà, tout est dit. Oui, vous voulez réagir, alors allez-y, Naïma Fadel.
Moi, je suis peut-être la seule qui suis...
contre
Oui, je suis contre armer la police, je vais vous dire pourquoi, parce que d'ailleurs, même à la lumière de ce que vient de dire Céline, c'est extrêmement important. L'État, c'est à lui qu'on doit notre sécurité, notre protection, et notamment l'égalité des territoires, c'est-à-dire le traitement que les populations, quel que soit là où elles habitent, puissent avoir les mêmes...
Quand l'État est défaillant.
La même sécurité et la... C'est pas faux. La même sécurité, la même protection. Après, si l'État est défaillant, c'est le problème de l'État. Mais les citoyens doivent demander effectivement que l'État rende des comptes. Parce qu'aujourd'hui, la police municipale, ce qu'elle prévoit au quotidien, d'ailleurs, les recrutements, c'est absolument pas la même chose. Il faut y faire attention aussi.
C'est des
recrutements d'agents aussi au niveau des collectivités. Donc, c'est absolument pas la même
chose. Faut égaliser par le bas?
Non, mais.
C'est-à-dire parce que certaines municipalités ne veulent pas investir dans la sécurité de leurs habitants.
Si, effectivement, l'État, à un moment, et effectivement, j'entends ce qui est dit, à un moment, se rend compte qu'il faut absolument déployer beaucoup plus de policiers nationaux et beaucoup plus en termes de sécurité et de protection, c'est l'État qui doit le mettre en place.
Je ne comprends pas le verrou mental, politique, moral.
Je m'inquiète.
Il n'y a pas que la police nationale. Il y a beaucoup de polices municipales qui sont sur un ressort de compétences de la gendarmerie.
Mais bien sûr.
Et quand on voit toute la superficie du territoire que la gendarmerie doit couvrir, qui correspond aux anciens cantons, en gros, ça représente des dizaines de communes, mais la gendarmerie ne peut pas non plus être partout. Et on est bien content d'avoir une police municipale.
Je viens d'un village de 4000 habitants communistes où la police municipale était armée. Donc vous voyez que...
Ah ben j'ai dit certaines.
C'est juste pour dire que effectivement, il y a plusieurs éléments. Un, c'est que il y a une évolution de la violence dans la société. Il y a une évolution des missions, y compris de la police municipale. Moi, j'entends la crainte d'une forme de démission de l'État au profit des territoires sur lesquels portent déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors qu'on leur retire toujours plus de moyens, et y compris qu'on veut compenser la dette grâce à eux pour partie. Cependant, et vous le voyez dans beaucoup de villes, y compris de gauche, pourquoi on a installé des caméras? Parce que quand la violence augmente et que le peu qu'on peut faire, on ne le fait pas, les habitants vous le reprochent. Et donc, de toute façon, on ira vers cela.
Mais Frédéric, si on transmet ça aux communes, justement, comme l'a expliqué Céline, il y aura une inégalité. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens.
C'est très théorique, votre débat, pardon.
Non, mais après,
il n'a pas parlé.
C'est vrai que, pardon pour ma voisine, mais ce débat est un petit peu daté. C'est-à-dire que, en fait, c'est un débat qui remonte à une trentaine d'années auquel j'ai participé, moi, il y a 30 ans. On disait, on n'arme pas la police municipale, c'est une question de formation. Il n'y a que quelques heures pour devenir policier municipaux. Alors que, quand on est policier national, eh bien, non seulement on a une formation en conséquence, mais on a aussi des entraînements réguliers. C'est-à-dire que chaque année, les policiers vont tirer. Donc, on a présent à l'esprit le maniement de l'arme. Mais aujourd'hui, tout ça semble tellement révolu par rapport à l'état d'ensauvagement, à l'état de violence de la société, que finalement, c'est des finasseries,
mais,
tout ça.
Mais
je suis désolé de le dire.
Stéphane, je vais vous répondre, mon cher Stéphane.
Ben, lui,
qui ne vous dit pas, au contraire, moi, je dis qu'il faut beaucoup plus, effectivement, à la lumière de l'évolution de cet ensauvagement
mais,
policiers nationaux.
Moi, je voudrais donner juste un exemple dans l'affaire de Samuel Paty, dans l'assassinat de Samuel Paty. Dans l'assassinat de Samuel Paty, pardon, mais l'assassinat de Samuel Paty, qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah Kandzorov, quand il a tué Samuel Paty, il a pris son temps pour décapiter ce professeur. Et qui est arrivé le premier sur place? Les policiers municipaux. Mais quand ils ont vu que l'assassin brandissait un pistolet, qui était un pistolet à air comprimé pourtant, eh bien les policiers municipaux sont partis tout de suite et il a fallu intervenir. Et c'est incroyable d'ailleurs qu'on ait réussi à arrêter cet homme. Ça montre bien
mais
que ça aurait pu se passer
autrement.
Évidemment.
Vous invitez Denis Jacob pour qu'il puisse s'exprimer en fonction de son expérience. Je vous remercie.
Pas assez d'effectifs, il n'y en aura jamais assez de toute façon, au vu de l'ensauvagement de la société. Dans les années 90, il y avait 96 000 policiers. Aujourd'hui, on est à 106 000 gradés et gardiens. 96 000 il y a 30 ans. Il y en a 20 000 de plus. C'est jamais suffisant. OK. Il faut revoir le statut de la police municipale. Là où je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas avoir une police à deux vitesses. Donc, il faut revoir le statut de la police municipale. Et il ne faut pas non plus dire qu'ils sont sous-formés. Ils sont moins formés, mais la formation des polices municipales, elle est aussi prodiguée par la police nationale, et notamment en matière de tir. Donc, il ne faut pas dévaloriser les collègues de la police municipale. Ils ne sont pas sous-formés, ils ont...
Mais qui est intervenu? C'était à Nice, quand il y a eu cette attaque dans une église. Juste, vous vous souvenez? C'était la police municipale. Avec ce bouton qu'a installé le maire. Je veux dire, mais pourquoi, quand il y a des choses qui nous sécurisent, qui nous protègent, on en est à avoir un...
Mais Sonia, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'argument soit de regarder le niveau le plus bas de sécurité et de dire, par égalitarisme, il faut que personne, aucune commune, aucun habitant n'ait de protection supérieure, c'est exactement l'inverse, je vous dis que votre raisonnement, votre raisonnement consiste à niveler par le bas.
Non, je crois que c'est l'inverse.
À dire que dans les villes qui n'ont pas les moyens ou pas la volonté, et dans le cas de Nantes, 300 000 habitants, c'est une absence de volonté, à s'armer et que...
La réponse de Céline Pina...
Par justice, par égalitarisme, il faut que tout le monde s'aligne.
En fait, c'est le contraire, c'est un niveau d'exigence plutôt plus élevé. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut des formations approfondies quand vous avez beaucoup de pouvoir? Parce que le risque de pouvoir, c'est toujours le risque de l'abus ou de la corruption. Plus vous êtes formé, donc plus vous êtes conscient de vos responsabilités, de ce que vous incarnez, de votre rôle dans la société, moins vous êtes fragile. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des gens extrêmement bien formés, parce qu'à partir du moment où vous donnez du pouvoir et des armes, sauf qu'aujourd'hui, rien n'est prévu.
Donc il faut le prévoir.
Rien n'est prévu. Rien n'est prévu pour les former.
On ne peut pas dénoncer l'insécurité quand on se dit qu'on va avoir des policiers municipaux qu'on va former pour défendre.
Que, regardez, on est dans un monde qui n'est pas un monde infini. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez un État qui vous dit qu'il est à poil et qu'il a à tout prix besoin de faire des économies qui se chiffrent
et qu'il les fasse ailleurs.
Vous allez les faire de quelle manière? Sur des ajustements de ce genre?
Pas du tout, Céline, pas du tout.
C'est ce qu'il y a depuis des années, malheureusement.
Oui, malheureusement, mais il y a un domaine dans lequel les économies sont évidentes et jamais faites, c'est le back-office.
C'est-à-dire plein de pistes d'économies.
Oui,
mais je vais revenir
les administrations, tout le monde le sait.
Au début de notre débat, ce sont quand même ces images avec ce rodéo urbain. Il y a la question de la justice à présent. C'est pour ça que j'ai interrogé sur
plus celle qui
pardonnez-moi sur ce refus d'obtempérer. Est-ce que c'est un refus d'obtempérer là?
Oui, c'est quoi,
oui, mais qui a conduit.
Alors, avant la vidéo, c'est un refus d'obtempérer parce qu'il y a déjà un premier policier municipal qui essaye de l'interpeller. Il veut prendre la fuite. Il y a un policier municipal devant lui. Il fonce délibérément dessus. Il n'essaye pas de l'éviter. Il fonce droit.
C'est une tentative d'homicide.
Donc, pour moi, mais ça ne reste que mon interprétation. C'est à la justice de donner la qualification exacte. Mais pour moi, quand je vois l'image là, c'est une tentative d'homicide.
Apparemment, le policier n'a pas eu le temps de se déplacer.
Mais hein, non. Donc il pouvait s'arrêter. Non, il fonce dessus. Et malheureusement, sur la réponse pénale, on se rend compte déjà que, en grande majorité, les rodéos urbains en moto, je ne parle pas des voitures.
Oui, là, c'est une motocross.
En général, ce sont des mineurs. Donc ça pose, la question de la délinquance des mineurs. Même si l'ordonnance de 45 a été un peu dépoussiérée il y a quelques années, ça n'a pas été assez loin parce qu'on n'a pas la délinquance d'aujourd'hui, pas la même délinquance et c'est pas les mêmes jeunes que les années 40, je suis désolé, c'est pas tout à fait la même évolution culturelle. Et puis ensuite, il y a la réponse pénale et à chaque fois qu'on interpelle des individus auteurs de rodéos urbains, qu'est-ce qu'ils se prennent? Oui. Soit au pire du sursis, au mieux des peines de TIG.
Donc, Maurice Berger, que Naïma Fadel cite souvent, a tout dit, mais il a tellement dit et répété, c'est-à-dire si vous n'avez pas agi de manière ferme à la première, au premier délit, c'est trop tard. Et là, vraiment, on voit bien qu'ils sont, pardonnez-moi le mot est terrible, ils s'enfilent complètement, ils font délibérément, il n'y a aucune considération de la vie humaine, aucune considération de l'uniforme, de l'ordre, de l'autorité, donc tous les mots parfois que l'on peut nous employer sonnent creux ici.
Je vais reprendre une formulation que je prends déjà depuis très longtemps, d'ailleurs je me félicite que le président de la République la reprenne aujourd'hui, c'est la désinhibition de la violence, la désinhibition des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on vit sur du virtuel et on retranscrit dans la réalité et il n'y a plus aucune retenue et on ne se rend pas compte ou alors on ne veut pas se rendre compte des conséquences derrière, à savoir on touche à l'intégrité physique des gens. Et je voudrais donner un exemple très concret parce qu'on parlait aussi de la police municipale de Nantes. Rappelons-nous quand même que le 5 mars, je crois que c'est dans la nuit ou dans la journée du 4 au 5 mars, on a une jeune femme de 24 ans qui est décédée à Brest suite à un rodéo urbain. Il faudrait peut-être penser aussi aux victimes, parce que souvent, on en parle, excusez-moi, 10 secondes dans un chapitrage dans les médias et terminé. Donc,
mais cette image, évidemment, du policier, mais de la maman à côté avec la poussette. Symbolisons quand même avec des images la dangerosité de ce que c'est, parce qu'on dit rodéo urbain, il y a un côté rodéo, non. C'est pas rodéo urbain, c'est des choses extrêmement graves.
Ce qu'on pourrait peut-être dire, pour se mettre tous d'accord, c'est que si ce garçon qui fonce sur un policier comme ça en toute impunité et en tout sentiment d'impunité était certain de faire une peine de prison après ce geste-là, eh bien je pense qu'il aurait certainement freiné. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, tous ces délinquants savent qu'ils ne feront pas ou très peu de prison à l'issue d'actes aussi graves que ça.
On va marquer une pause, on aura l'occasion. Allez-y.
J'allais dire, moto non homologuée, c'est pour dire voler?
Non, moto non homologuée, sinon, c'est qu'elle n'est pas autorisée à circuler sur la voie publique.
Allez, une pause et on se retrouve. À tout de suite. Les dieux de l'Olympe. Veille sur la flamme olympique, vous allez voir le passage du premier porteur tout à l'heure vers qu'il a transmise à la nageuse olympique Laure Manoudou. Puis on parlera surtout aussi de la menace terroriste, de ce que ça va mobiliser en termes de sécurité de forces de l'ordre. Après vos titres, cher Mickaël.
Déjà plus de 50 000 euros récoltés en soutien au gérant du magasin Geox à Strasbourg. L'homme avait reçu des menaces de mort depuis qu'une vidéo le montrant refouler une intérimaire voilée a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les professionnels du BTP tirent la sonnette d'alarme. En moyenne, une entreprise du secteur sur deux est victime d'au moins un vol d'engin de chantier par an. À chaque fois, le préjudice est très conséquent et ça se compte souvent en dizaines de milliers d'euros. Et puis aucun juré retenu pour le moment au procès de Donald Trump. L'ancien président est accusé d'avoir falsifié des documents financiers. Plus de la moitié d'un premier groupe de 96 jurés potentiels ont déjà été exclus à leur demande pour leur manque d'impartialité.
Le premier porteur de la flamme olympique, vous allez voir les images, l'a transmise tout à l'heure à l'ex-nageuse olympique, Laure Manaudou, un moment symbolique pour la championne, 20 ans après son sacre aux Jeux d'Athènes de 2004. Ce sont les dieux de l'Olympe qui veillent sur cette transmission. Bon, c'est voilà, Laure Manaudou, vous voyez. On a un peu ironisé sur le moment où voilà, il faut qu'il y ait le passage de flamme. Alors évidemment, qui nous interpelle tous. Bon, c'est une belle cérémonie sur les ruines de l'ancien temple d'Héra. Et grâce aux rayons du soleil d'Apollon, je vous fais un petit peu là, j'anime la cérémonie. Ben, la flamme olympique a officiellement été allumée pour débuter son parcours à travers ensuite la France, évidemment, et pour commencer Marseille. Alors Rudy Mana, qui est aussi policier et syndicaliste, qui connaît très bien le sud de la France, il a dit, oh là là, ça... Ah non, ça c'était écrit, mais ce n'est pas pour la flamme. Mais ça ne va pas être évident à sécuriser, parce qu'il y a beaucoup de tentatives d'éteindre la flamme. Il y a des... Alors, ça peut pas sembler être anodin, ce n'est pas anodin du tout, d'abord symboliquement quand même, mais aussi pour sécuriser Marseille, et en particulier le lieu où arrivera la flamme, c'était déjà un casse-tête, avant même la cérémonie. Est-ce que c'est le cas ? Oui.
Alors oui, bah, c'est toujours un casse-tête en matière de sécurité, surtout quand ça se passe sur la voie publique. On reviendra peut-être sur la sécurisation des bords de Seine plus tard, mais c'est un vaste débat. Mais là, il faut savoir que dans le dispositif de la flamme, il y a un périmètre de sécurité tout autour du porteur de la flamme, constitué de policiers qui l'encadrent, qui avance en même temps que le porteur de la flamme, justement pour éviter qu'elle... Après, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'avoir encore un fou qui essaye de passer et d'essayer d'éteindre la flamme. Mais le ministère de l'Intérieur a essayé de penser au mieux au dispositif de sécurité.
Donc attendez, sécurisation sol, air, et puis mer, la Seine aussi. Mer, peut-être oui. Marseille, mais quand on sera à Paris, la Seine.
Oui.
Donc trois dimensions.
Oui, c'est ça.
C'est assez inédit.
Ah ben c'est carrément inédit pour nous en tous les cas policiers, c'est un dispositif jamais connu. Je pense que d'ailleurs ça n'a jamais été connu dans quelques pays que ce soit.
Jamais, parce que la cérémonie ne se fait pas dans
ces... C'est une première et c'était toute l'inquiétude des policiers depuis le lancement de la préparation de ces JO, d'autant même que nous, depuis déjà des mois, au sein de mon organisation syndicale, on en parle très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, et on s'était interrogé pourquoi il n'y avait pas d'annonce sur un plan B, voire un plan C. Aujourd'hui, c'est fait, c'est quand même plutôt rassurant, parce que très honnêtement...
Rassurant pour vous, un peu moins
Bien évidemment, parce que sécuriser le Trocadéro ou sécuriser le Stade de France, c'est quand même pas tout à fait la même chose que sécuriser les bords de Seine. Donc pour nous, en termes de dispositif de sécurité... elle est un peu égoïste, hein, mais c'est quand même plus simple pour les policiers.
Il y a une question qui je trouve très très intéressante, je la pose à tous mes invités tous les jours, donc les spectateurs la connaissent. Par exemple, Naïma Fadel et vous tous, est-ce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui ? Vous avez une menace terroriste prégnante. Est-ce que vous vous dites, écoutez, par crainte, oui, c'est le mot, et par lucidité, par pragmatisme, je fais une mini-cérémonie, même si ce sont des Jeux Olympiques, ou alors c'est la France ? Et pour refuser cet esprit de soumission, de renoncement, je fais une méga cérémonie, quoi qu'il arrive.
Non. Moi, je suis du genre à mettre beaucoup, beaucoup de prudence. Donc, en responsabilité, j'écouterai toutes les renseignements généraux, notamment, qui alertent. Et je ferai en sorte que ça se passe très, très, très bien, mais certainement au Stade de France. En tout cas, sur un lieu qui peut être un lieu sécur, parce que je ne mettrai certainement pas en danger la population...
Très divisé. L'opinion est très divisée. C'est intéressant, votre avis.
Le problème, c'est que la question est complètement piégée. L'idée initiale était mauvaise. Décider dans ce contexte qu'on connaissait déjà de la part d'Emmanuel Macron de faire mieux que le monde entier pour des raisons d'ego, en fait, pas pour des raisons simplement de prestige national, pour des raisons d'égo personnel, une cérémonie à laquelle personne n'avait pensé et qui présentait des défis de sécurité immenses, était une mauvaise décision. Maintenant que c'est décidé, revenir dessus, c'est céder face à la pression terroriste. Donc il n'y a que des mauvais choix à faire dans cette histoire.
Bah non, il a dit qu'il revenait dessus. Hein, parce qu'il est en train de voir
un plan B et un plan C. Vous allez voir les commentaires.
Ou du pragmatisme.
Non, mais personne n'aurait perçu comme un renoncement le fait de le faire au Stade de France au départ. C'est ça qui est dit. Et effectivement, y compris pour les forces de l'ordre, ça aurait été beaucoup plus, et la population beaucoup plus sécure. Alors aujourd'hui, effectivement, faire trois pas à l'arrière, c'est nous dire la menace est en train d'augmenter, donc nous reculons. Mmh. Et c'est justement le piège dans lequel vous disiez qu'on pouvait tomber. On y tombe.
Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait effectivement avant pour faire reculer la menace ? C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir dans toutes les atteintes islamistes qui ont eu lieu ces derniers temps, c'est l'impuissance de l'État. C'est son incapacité à réagir autrement que verbalement. C'est sa difficulté à se dire les échouer.
C'est pas vrai, parce que franchement, au quotidien, on va... Le ministère de l'Intérieur, non. Il ne va pas faire un compte-rendu tous les jours de tout ce qu'il déjoue.
Mais
il y a beaucoup de faits qui sont
de l'idéologie. Je parle sur le positionnement politique. Oui. C'est-à-dire que face à des attaques idéologiques extrêmement fortes, je ne il lutte contre le terrorisme. Vous savez, je n'ai aucun doute là-dessus et qu'il le fait le mieux possible, enfin le mieux qu'il le peut. Mais en revanche, il ne se positionne pas politiquement de façon claire et il ne lutte pas contre l'islamisme. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a un travail politique réalisé dans les quartiers et là-dessus, on continue à laisser les imams français être formés par les frères musulmans. On donne aux frères musulmans l'accès à toute cette population sans vraiment lutter contre. On ne donne pas à cette population des clés pour embrasser finalement ce qui est notre sociabilité.
Et faire des Français de désir, comme le dit Philippe de Villiers. C'est-à-dire une bataille culturelle et arrimer tout le monde.
On ne sait pas le faire. Et c'est en ce sens-là que parce qu'on n'a pas fait ça, aujourd'hui, on est très exposé. Et donc, autant être pragmatique et dire, si je n'ai pas su le faire avant, autant pas exposer ma population pendant.
On peut dire aussi que le premier devoir d'un chef de l'État, c'est de protéger son peuple et... Quand on n'est pas certain de pouvoir le protéger,
Russie n'est pas.
Il y a quand même des schémas sécuritaires qui sont beaucoup plus sûrs que d'autres. Et là, prendre le maximum de risques dans une très mauvaise période, c'est pas le schéma sécuritaire le plus certain. Donc moi, je fais partie de ces gens qui auraient plutôt préféré une cérémonie modeste. En plus, je trouve que la grandiloquence dans ces temps très troubles, avec beaucoup de guerres, etc., ça me semble totalement, à côté de la plaque.
C'est dit. Vous voulez ajouter quelque chose, Denis Jacob ? Bon, on va voir. D'abord, on souhaite que
ça passe, évidemment. Sur le choix politique, ça ne m'appartient pas d'y répondre. Moi, je suis syndicaliste policier. Je ne vois pas ce qui serait honteux de la part du chef de l'État de faire machine arrière. Vous venez de le dire, c'est la sécurité de nos concitoyens.
Mais le débat sera reconnaître une erreur.
Oui, alors politiquement, on doit assurer avant toute chose la sécurité de nos concitoyens. Et si les signaux sont au plus haut, et il semble qu'on y aille de plus en plus, si les signaux... on y est. Donc à un moment donné, il va falloir prendre en considération cette situation dans laquelle on est et ne pas hésiter à faire marche en arrière s'il le faut pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Enfin, c'est une responsabilité... et politique, et nous, de policiers, d'assurer au maximum.
D'autant que sur le plan international, en particulier au Proche et au Moyen-Orient, ce qui va se jouer aura probablement des conséquences et pourrait nourrir cette menace-là. Là, j'en viens à la question qui est de savoir, non pas si Israël va riposter, mais quand et comment, la nature, quelle cible, le Hezbollah, d'autres proxys comme les outils, ou alors ce n'est pas exclu directement sur le sol iranien, ce qui ferait prendre quand même... à ce conflit une tournure très très particulière. Écoutons le chef de l'armée israélienne pour qui c'est une évidence qu'il y aura une riposte dans quelques instants. Bon, on l'écoutera. En tout cas, ce qu'il dit pour résumer, c'est que oui, dit-il, la riposte est légitime. Israël ne peut pas rester sans frapper. Georges Bensoussan nous disait ce matin que c'était un piège. On va l'écouter, je crois qu'on dispose de ce son. L'historien nous a dit, si Israël... riposte fortement, d'abord les États-Unis ne le veulent pas et ont bien dit attention, il y a un risque pour le tandem ou l'allié américain et si il riposte peu, c'est la porte peut-être ouverte à d'autres actions ou de l'Iran ou du Hezbollah ou des Houthis. Écoutons Georges Bensoussan.
La riposte est inévitable parce que si c'est d'ailleurs la situation piégée dans laquelle est Israël, et depuis le 7 octobre d'ailleurs, hein, parce que si Israël ne répond pas, alors que l'attaque vient d'Iran et que c'est une attaque massive avec 300 engins et 60 tonnes d'explosifs, ça signifie que sa capacité de dissuasion est entamée. Et si Israël riposte de façon trop massive, alors ça contrecarra les plans et les objectifs de l'allié américain. Donc la voie est très très étroite pour l'État d'Israël. Il ne peut pas ne pas réagir, mais il doit réagir de façon très intelligente, très mesurée. Comment? Je n'en sais rien, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas ne pas réagir.
Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est ce que dit Georges Bensoussan est très juste. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on sent à quel point l'Iran est fragile, à quel point sa population ne soutient pas les Mollahs. Et c'était peut-être l'occasion d'avoir une coalition internationale qui aurait pu résoudre un problème extrêmement épineux. Manifestement, on n'a pas ce courage-là. À partir du moment où on n'a pas ce courage-là, effectivement, la question est un petit peu piégée. Après, j'allais dire taper sur les outils, par exemple, fera plaisir à tout le monde et ne déclenchera pas de levée de bouclier. Donc il y a peut-être moyen, malgré tout, d'avoir une réplique qui, finalement, ne déstabilise pas toute la région.
Je voudrais vous parler, justement, vous en parlez tout à l'heure, de cette liste Free Palestine aux Européennes. Je vais expliquer simplement à nos téléspectateurs de quoi il s'agit. C'est une nouvelle liste pour les Européennes. Ça commence à être long, hein, justement. Ça a fait une trentaine, je crois, de listes. Celle-ci est singulière, très spécifique, puisqu'elle rassemble des démocrates, en tout cas ils se présentent ainsi, musulmans de plusieurs pays d'Europe, qui veulent faire entendre la voix des Palestiniens. Vous voyez en quoi le débat est piégé? Parce que quand on dit ça, eh ben, légitimement, certains vont nous dire « Et donc, vous ne pouvez pas faire entendre la voix des Palestiniens ?» Sauf que quand vous voyez le slogan, quand vous voyez aussi ce qui est dit sur cette liste et les revendications, vous comprenez qu'en réalité, cette coalition qui est appelée, hein, dans toute l'Europe, Free Palestine Party, et qui réunit plusieurs partis européens, ne veut pas tout simplement de l'existence d'Israël. Mais le débat est piégé à chaque fois.
Non, en fait, il est très clair. Et le problème,
il nous est
imposé. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que essayez donc de faire
Yémen. Ça marche pas.
Non, mais pourquoi est-ce que on joue là-dessus? Essayez de faire la. Pourquoi est-ce qu'on utilise la Palestine? C'est ça le terme. Essayez de le faire avec le Yémen. Essayez de le faire avec la Syrie. Est-ce que vous allez jouer là-dessus? Non, ouais. Parce qu'en fait, tout le monde s'en moque. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que, et on retombe sur la question de l'islamisme, le but de l'islamisme, c'est de proposer une manière de voir et de vivre identique, quels que soient les pays du monde, autrement dit, qui soit liée à une vision religieuse. Dans cette vision religieuse, la Palestine est un fixe.
Là, j'ai l'impression que c'est territorial et identitaire plus que religieux pour la Palestine.
En fait, sauf que pourquoi est-ce que c'est insoluble? Parce que l'histoire territoriale est liée au religieux. Le fait qu'il y ait un État juif dans cette partie du monde est vécu comme un blasphème.
J'entends.
Et c'est parce que c'est un blasphème qu'on ne peut pas le gérer politiquement.
Oui, mais dites, pardonnez-moi, le plus important, c'est que ces listes ne font rien.
Oui, mais parce qu'elles s'en moquent, elles utilisent une vision du monde dans laquelle, quand vous êtes croyant, vous devez prendre position sur la Palestine.
Enfin, c'est la réalité, c'est qu'on ne prend pas position, elles font 1%. Donc tout le discours qui consiste à dire, regardez, on va amener avec
le vote communautaire dans notre pays, ne fonctionne pas.
Je rappelle qu'il faut faire 3,5% de vote, constaté pour avoir une représentation.
En tout cas, c'est l'objectif.
On est très loin de 3,5%.
Non, il faut 5% pour la représentation et 3% pour être remboursé.
Merci Judith. Mais donc là, on est très très loin. Donc de toute façon, ceux qui portent leur voix à Free Palestine n'auront pas de représentants au Parlement européen.
Mais là encore, vous êtes d'accord qu'il faut mieux laisser de telles listes se cracher?
Écoutez, ce sera toujours ça que la France insoumise n'aura pas, d'un point de vue
c'est une liste concurrente.
Y compris dans les communes, lorsque vous voyez des listes communautaristes dans les communes, et y compris dans les communes où il y a beaucoup de quartiers où les gens sont issus de l'immigration, ça ne fonctionne absolument pas. Donc si on était dans le contexte tel qu'on le dit, avec très majoritairement des gens qui basculeraient là-dedans, ben ces listes-là feraient 20%, ça n'est pas le cas.
Allez, les titres avec vous, cher Mickaël, on va conclure juste après.
Achille Tighem, un mineur de 17 ans, a délibérément foncé à moto sur un policier qui lui demandait de s'arrêter. Il faisait du rodéo à la sortie d'une école et a renversé l'agent de police avant de prendre la fuite. Un Français de 31 ans récompensé pour sa bravoure après l'attaque de Sydney, attaque qui a fait 6 morts et plusieurs blessés samedi. Damien Guéraud a brandi un poteau face à l'agresseur pour tenter de le stopper. Il a été félicité par Emmanuel Macron. Et puis la bourse de Copenhague ravagée par les flammes, une flèche haute de plus de 50 mètres est déjà partie en fumée. Les pompiers danois restent à pied d'œuvre pour tenter de limiter les dégâts.
Comparaison n'est pas raison, mais ça rappelle quand même les images de Notre-Dame. Autre, je ne fais aucune comparaison, on va parler d'une autre flamme olympique. Je voudrais terminer quand même sur, enfin une belle image, en tous les cas sur des valeurs positives. Est-ce que vous connaissez par cœur, elles ne sont pas nombreuses, au nombre de trois, les valeurs olympiques?
J'ai peur de me planter, je passe mon tour.
Je pensais que vous alliez m'aider. Alors, de mémoire, c'est amitié, excellence, et le troisième m'échappe. Amitié, excellence, respect. Et il y a d'autres valeurs qui sont les mêmes, évidemment, mais pour Paralympique, je crois que c'est détermination, inspiration et égalité. Les téléspectateurs vont vérifier. Là, si je me suis trompée, c'est terminé.
Ah, vous êtes lancé sans filet.
Ah non, mais bravo.
Ah,
bravo,
c'est ça. Excellence, respect, amitié, me dit Samira, pour les JO. Voilà.
Ah bah bravo.
Voilà, non bah bravo. Encore non, faut-il non, que je les applique sorties, hein. Là vous me direz bravo.
Ce qu'on peut dire Sonia, c'est qu'il est peut-être temps aussi de susciter une adhésion de l'ensemble des Français autour de ces JO.
Mais évidemment.
Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment un engouement et que peut-être qu'il faut arrêter de parler de ce qui fâche.
Oh là là, là vous me tombez vraiment... le...
Non,
allez-y, bah, moi sur une bonne note. Alors je l'ai.
Soit dans le cocorico.
Les valeurs olympiques, amitié, respect, excellence, c'est évidemment les mêmes. Mais les valeurs paralympiques, il y a plus si je puis dire, parce que... Ça partage. Il y a le partage, la détermination, l'égalité, l'inspiration et le courage.
Voilà. Et puis il faudra peut-être dire aussi un porte-monnaie bien garni, parce que peut-être oui. que si il n'y a pas d'enthousiasme c'est populaire, c'est parce qu'il n'y a pas moyen d'accéder.
En tous les cas, il y a de l'enthousiasme sur ce plateau, parce qu'avec vous, c'est vif. Hein. Je vous remercie.
Non, mais c'est dommage, ça aurait pu être raison. Une jolie fête populaire, mais avec peut-être des prix pareils, c'est impossible.
Exactement. Je vous remercie, Denis Jacob, merci de nous avoir rejoints. Je vous remercie évidemment. Tous nos amis, je vous dis à très bientôt. Restez avec nous, vos éditions se poursuivent et je vous retrouve demain à midi comme d'habitude.
C'est quoi, c'est... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.